j'ai reçu ton ordinateur.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Du téléphone, en passant par l'ordinateur, la fusée ou même la machine à laver, les microprocesseurs sont partout. Pièces indispensables au bon fonctionnement de nos outils technologiques du quotidien, ils sont pourtant mal connus. Alors, pour parler de ces petits bijoux de technologie, nous sommes ravis de recevoir François Tonic, historien, journaliste et rédacteur en chef de Programmé, un magazine d'informatique écrit par et pour les développeurs. Partez avec nous à la découverte de ces circuits intégrés et plongez dans la course à l'innovation. Bonne écoute! Pour le Quidam, s'imaginer un microprocesseur n'est pas forcément chose facile. Réminiscence de vos cours de techno, d'un oncle bricoleur, ou bien peut-être avez-vous déjà démonté vous-même un ordinateur ou un téléphone? Là, logé au cœur de la bête, un composant d'une taille minuscule fait tourner toute la machine. C'est bien cela, François Tonic?
Le microprocesseur, c'est la base de toute électronique, c'est la base de tout ce qu'on a aujourd'hui. Sans ça, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Mais imaginez que le nombre de composants d'un microprocesseur aujourd'hui, il faudrait plusieurs terrains de football pour qu'ils tiennent aujourd'hui en place. C'est pas 50 composants dans un seul et même circuit. Aujourd'hui, on parle de dizaines de milliards de transistors sur quelques millimètres carrés ou quelques centimètres carrés. Et on l'oublie, ça. Donc, en fait, les ordinateurs dits personnels, donc son Mac, son PC, sont nés parce qu'il y a eu le microprocesseur. Ça, c'est clair et net. Sans microprocesseur, les ordinateurs, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils ne pourraient pas exister.
Et pourtant, vous l'imaginez bien, ça n'a pas toujours été le cas. L'informatique se nourrit d'innovations successives. On vous renvoie pour cela à l'épisode numéro 1 avec Valérie Schaeffer si vous souhaitez en savoir plus. De la machine de Turing à l'iPhone, c'est toute une odyssée technologique qui s'est mise en branle. Et le microprocesseur, on doit bien l'avouer, est l'un de ses plus jolis fleurons, comme nous l'explique François Tonic.
Un microprocesseur, voilà, en fait, c'est le rassemblement de plusieurs composants. En fait, c'est 10 outils en un. Et le microprocesseur va être créé parce que on a inventé depuis le début des années 50 un certain nombre de technologies qui vont permettre justement de créer le microprocesseur. Déjà, il y a le transistor. Sans transistor, il n'y a pas d'informatique. On a créé le circuit intégré. Donc, en fait, le fait de pouvoir mettre sur une plaque, effectivement, plusieurs composants les uns à la suite des autres, et ensuite intégrer plusieurs composants dans un seul composant. Sans ces innovations, déjà, la NASA n'aurait jamais pu faire partir la mission Apollo 11, et les composants n'auraient jamais existé. Donc vraiment, c'est l'ajout de toutes ces inventions depuis les années 50 qui vont aboutir au microprocesseur. Il y a une course de vitesse, en fait, et ça, il faut bien le comprendre, qui se déroule dès la fin des années 60. En fait, on est même en 67 et 68. C'est une des raisons qui a poussé d'ailleurs des ingénieurs à créer Intel. Même si c'est pas le premier métier d'Intel, effectivement, à son origine, mais Intel va très vite travailler, dès 69, à créer un microprocesseur.
Mais alors, dans cette course technologique, y a-t-il un créateur, un ingénieur génial, un géotrouve-tout à qui revient la paternité de l'œuvre? Eh bien, figurez-vous que oui, et rendons-lui hommage ici.
Son nom, c'est Federico Faggin. C'est sans doute l'ingénieur italien, en fait, l'ingénieur électronique le plus connu en Italie, parce qu'il a déjà créé ça, que son travail chez Olivetti, donc quelques années avant, donc un gros constructeur italien, même si aujourd'hui on a oublié un petit peu son existence. Effectivement, il a joué un rôle extrêmement important à ce niveau-là. Et c'est la société Intel qui l'avait débauché à la fin des années 60.
Bon, les microprocesseurs sont partout, on l'a bien compris. Mais en quoi cela a-t-il révolutionné l'informatique, François Tonic?
Ben en fait, un microprocesseur, pour faire très très simple, on prend plusieurs transistors. Donc un transistor, c'est un composant électronique. On les combine sur une même plaque, donc ce qu'on appelle un PCB, en fait un circuit imprimé, pour pouvoir avoir une seule et même entité sur une plaque. Donc mettons, au lieu d'avoir 50 composants sur une même plaque, en fait, on n'aura plus qu'un. Donc c'est un gain de place énorme et surtout on va optimiser le fonctionnement effectivement de ces composants. Le microprocesseur va permettre d'exécuter ce qu'on va appeler des instructions. Typiquement, c'est grâce au microprocesseur que les logiciels, que les applications peuvent fonctionner. C'est grâce à lui qu'un ordinateur peut faire des calculs très rapidement. C'est lui qui va pouvoir gérer l'ensemble des composants qui sont présents dans un ordinateur ou dans un smartphone. C'est lui qui va être capable de faire plusieurs fonctions en même temps. Il faut vraiment voir ça comme le cerveau de la machine. Il sert vraiment à ça. Alors même si effectivement il n'y a pas que ça dans un ordinateur, mais c'est quand même le cœur même, c'est le centre névralgique de la machine.
Et ces indispensables millimètres carrés de métal, on en produit à la chaîne. Enfin, quand je dis « on », c'est un peu flou. Car justement, l'été dernier, l'industrie a dû faire face à un problème inédit. Pénurie de microprocesseurs, panique à bord. Mais alors, que s'est-il passé, François Tonic ?
La pénurie de composants vient de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le Covid. Parce que le Covid, en fait, a désorganisé un certain nombre de chaînes de matières premières et de fabrication. Un certain nombre d'usines qui fabriquaient des semi-conducteurs, en fait, à des composants, ont fermé durant plusieurs mois et donc mal les stocks, mais s'épuisaient. Ensuite, il y a l'explosion de la demande aussi en composants. Aujourd'hui, on trouve des composants électroniques, des microprocesseurs, des semi-conducteurs absolument partout. Dans l'automobile, dans sa cuisine, les PC, smartphones, etc. Et plus, en fait, on a besoin de composants électroniques et plus la pression sur la quantité à fabriquer est importante. Plus, il y a eu aussi des sécheresses effectivement à Taïwan. Et ça pose problème parce que les usines de composants ont besoin d'eau aussi, accessoirement. Donc, quand on met bout à bout tous ces facteurs, en fait, on comprend que le marché des composants électroniques est extrêmement tendu. Qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus capable de fabriquer et de répondre surtout aux demandes de tout le monde.
Aujourd'hui, certains composants, notamment dans le domaine réseau, nécessitent 500 à 600 jours de délai, presque 2 ans. Certains pays souhaitent revenir à une réindustrialisation et à une production de composants plus locale. Une éclaircie semble possible pour 2022-2023, mais pas avant. Deuxième problème, les très gros fabricants privilégient évidemment les très gros clients qui sont, eh bien, on vous le donne en mille, les fabricants de smartphones. Huawei, Oppo, Apple, Samsung, des quantités faramineuses de composants sortent des usines pour aller équiper tout un attirail de téléphones flambant neufs. Et cela pèse sur le reste de l'industrie et notamment sur les constructeurs automobiles qui ont dû fermer leurs usines, voire même remplacer des composants électroniques en revenant à de bons vieux fonctionnements mécaniques.
Tesla a même dû laisser un vide à la place du connecteur USB, parce qu'il n'avait plus accès à ce type de composants.
Et dans le milieu des microprocesseurs, une drôle de prophétie régit l'industrie. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, il s'agit de la loi de Moore. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette loi de Moore, François Tonic ?
La loi de Moore, c'est ça. En fait, c'est que tous les 18 mois, effectivement, on va doubler la puissance, on va doubler le nombre de composants que l'on va avoir dans un circuit intégré. Donc, sous-entendu maintenant, le microprocesseur.
En d'autres termes, la loi de Moore implique que les ordinateurs deviennent au fil du temps plus petits, plus rapides et donc moins chers à produire. Cette loi a régi l'industrie informatique pendant plus de 50 ans, permettant la planification de la production à long terme et la synchronisation des différentes branches de l'industrie. Une prédiction bien utile donc, mais qui atteint aujourd'hui ses limites.
La loi d'humour, effectivement, à un moment donné, il y a des limites. Parce que, aujourd'hui, on ne peut pas doubler à l'infini le nombre de composants. Il y a un problème de taille du composant du microprocesseur pose problème, parce que plus, effectivement, on va graver extrêmement fin, et plus on va avoir des contraintes au niveau physique. Et cette course, effectivement, à la puissance, bon, on l'a vu dans les années 90 et même jusqu'à récemment, n'a plus beaucoup lieu d'être, parce que les microprocesseurs sont déjà ultra puissants aujourd'hui, qu'on les exploite souvent très très mal, et que surtout, plus on concevait des processeurs puissants, et plus ils avaient tendance effectivement à chauffer et à consommer de l'énergie. Donc ça pose effectivement un autre problème. C'est pour ça que certains types d'architectures de microprocesseurs aujourd'hui sont privilégiés parce qu'ils chauffent moins et surtout ils consomment moins.
Eh oui, l'industrie du microprocesseur progresse encore et tente de répondre à de nouveaux défis, dont l'écologie évidemment. C'est ainsi que certains constructeurs tentent encore et toujours de franchir la loi de Moore en proposant de nouvelles solutions censées être toujours plus puissantes et aussi plus économes. Fini les composants couchés à l'horizontale et bienvenue aux transistors verticaux qui pourraient bien être une petite révolution dans l'industrie. Installés perpendiculairement les uns par rapport aux autres, avec un courant se déplaçant verticalement, les industriels assurent que ces processeurs nouvelle génération seraient 85% plus économes. Comme quoi l'informatique a de beaux jours devant elle. Enfin, nous, on vous dit ça, on vous dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez en savoir plus au sujet du microprocesseur, la puce à l'oreille vous recommande Une brève histoire de l'électronique de Henri Lilin. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à ce nouveau format. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt !